Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'actu, le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Nuit d'angoisse et à la bougie pour de nombreux viticulteurs, arboriculteurs pour sauver leur récolte face au gel et les températures proches de zéro. RMC en direct de la Loire ce matin. L'enquête après la blessure par balle de Kenji Girac, le chanteur opéré hors de danger depuis hier soir à Bordeaux. RMC en direct sur place. Et puis la réouverture de l'autoroute A13 à l'ouest de Paris. C'est pas pour tout de suite, pas avant le 1er mai.
Et après le journal, le gouvernement qui reprend la main sur la réforme de l'assurance chômage et qui accélère. Les conditions seront durcies dès le 1er juillet. Quelle réponse des syndicats? Un coup de force, nous dira le négociateur de Force ouvrière. Son parti pris, c'est dans 10 minutes. Et les cultures n'y comprennent plus rien ce matin.
Oui, parce que dans l'ordre, on a eu les fortes pluies, le chaud et maintenant le froid. Les températures de fin février alors qu'on est fin avril. Les arboriculteurs et les viticulteurs ont donc passé la nuit dans leur culture. Hein. Vincent Chevalier, correspondant de RMC dans l'Est de la France, vous étiez en compagnie de l'un d'entre eux à Saint-Paul-en-Jarret toute la nuit entre Saint-Étienne et Lyon.
Oui, c'est un peu la semaine de tous les dangers pour Michael Masneau. Sur ses 25 hectares, c'est pommiers, poiriers, cerisiers résistent tant bien que mal à la baisse des températures. On s'est approché des 0 degrés ce matin, de quoi donner quelques sueurs froides. Alors Michael, est-ce qu'on a échappé au gel pour cette fois-ci?
Ah oui, pour cette fois-ci, on a échappé au gel puisque le plus bas relevé ce matin vers 7h30 a été 0,5 degrés. Maintenant, le soleil se lève, la température est en train de remonter. Donc les installations vont rester prêtes pour la nuit prochaine, c'est-à-dire que l'antigel par aspersion sur nos parcelles.
Il y a des inquiétudes pour les prochaines nuits aussi, c'est ça?
Oui, les inquiétudes, c'est jusqu'à vendredi matin, au vu des prévisions météo les plus récentes.
Donc on reste sur le pied de guerre, au moins jusqu'à la fin de la semaine.
Voilà, jusqu'à la fin de la semaine, on va rester pas trop loin de notre alarme et être prêt à se lever au cas où.
Effectivement, normalement, les arboriculteurs de la Loire devraient pouvoir souffler. Cette fin de semaine, on vient de le dire, une remontée des températures attendue à partir de vendredi.
Concernant le réchauffement climatique, tiens, c'est l'Asie qui a été la région la plus touchée par les catastrophes météo en 2023. C'est ce que nous dit l'ONU ce matin. C'est là-bas en Asie que les inondations et les tempêtes ont fait le plus de victimes et le plus de conséquences, ont le plus de conséquences économiques. L'information de la nuit, elle nous vient du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, où vous l'entendez? Le Parlement britannique a adopté donc cette nuit le projet très controversé d'expulsion de migrants vers le Rwanda. Ça fait des mois que les Britanniques se déchirent entre les pros et les opposants à l'expulsion donc de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni, donc vers ce pays d'Afrique, en payant les Rwandais. Accord trouvé entre les deux pays, avec, espèrent les Britanniques, un effet de dissuasion. La Cour suprême, pourtant britannique, avait jugé le projet illégal, c'était en novembre dernier, mais le texte donc a été adopté dans la nuit, en considérant le Rwanda, je cite, comme un pays tiers sûr.
Il est 8h04, vous êtes bien sur RMC. Kenji Girac est hors de danger ce matin, mais les circonstances de sa blessure par balle sont toujours floues.
Oui, touché au thorax dans la nuit de dimanche à lundi, sur l'aire de passage de Jean du Voyage de Biscarrosse, dans les Landes. Le chanteur a été opéré hier soir au CHU de Bordeaux. Vous êtes en direct ce matin pour RMC, Pierre Bourgès, enquête ouverte depuis hier soir.
Effectivement, hier soir, Kenji Girac a bien été opéré au CHU de Bordeaux, à l'hôpital Haut-l'Évêque, ici où je me trouve. Il est désormais hors de danger. Maintenant, une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le procureur de la République de Mont-de-Marsan pour tenter de déterminer ce qu'il s'est passé. Kenji Girac a expliqué au secours s'être tiré dessus tout seul en manipulant une arme qu'il venait d'acheter dans une brocante. Mais aucune piste n'est écartée par les enquêteurs pour le moment. Le chanteur sera auditionné quand son état de santé le permettra. Sa compagne, elle, a déjà été auditionnée hier et une arme de poing sans chargeur a été retrouvée par les enquêteurs dans un fossé à côté de la caravane. Mais cet incident embarrasse la communauté des gens du voyage, que ce soit dans l'aire de passage à Biscarrosse ou devant l'hôpital où je me trouve. Personne n'a souhaité expliquer ce qu'il s'était passé la veille. Hier, une dizaine de proches étaient devant l'hôpital, tous inquiets. L'atmosphère était pesante. Ce matin, tout semble s'être calmé. Les proches sont rentrés chez eux. En tout cas, il n'y a plus personne devant l'hôpital où étaient les proches hier.
Procès à Paris aujourd'hui d'un homme qui a menacé de mort sur Internet le proviseur du lycée Maurice Ravel dans la capitale. Proviseur qui est parti à la retraite de manière anticipée il y a un mois pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il avait subi un raid numérique après avoir demandé à une élève de retirer son voile dans l'enceinte du lycée. Des menaces de mort notamment, dont une publication reprochée à un jeune homme de 26 ans qui va donc comparaître cet après-midi, Marion Dubreuil.
Oui, c'est le grand frère d'une élève scolarisée à Ravel. Elle lui avait rapporté l'incident, arrivée au lycée. Sans avoir vu la scène, elle avait affirmé que son proviseur avait frappé une élève voilée. Dans la foulée, le jeune homme de 26 ans publiait sous pseudo « Il faut le brûler à vif ce chien » sur un réseau social en ciblant le chef d'établissement. Ce responsable de projet spécialisé dans les transports a été renvoyé devant le tribunal le mois dernier. Une audience au cours de laquelle il a présenté ses excuses au proviseur et demandé un délai pour préparer sa défense. Le chef d'établissement, lui, n'assistera pas au procès pour des raisons de sécurité. Son avocat voit dans ce dossier la mécanique de la rumeur qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Une enquête pour dénonciation calomnieuse est toujours en cours.
Combien de temps ça va durer à l'ouest de Paris, où l'autoroute A13 est fermée depuis la fin de semaine dernière ? La faute à des fissures sur la chaussée. Alors ça devait rouvrir là, en milieu de semaine finalement. Ce ne sera pas avant le 1er mai, Romain Hougue.
Et oui, cette autoroute de l'Ouest parisien va rester fermée dans les deux sens pour encore au minimum une semaine. Et on en sait un peu plus sur les motifs de cette fermeture. En fait, c'est ce qu'on appelle le mur de soutènement. C'est la paroi verticale qui retient la terre sur le côté de la chaussée qui s'est déplacée. Et en se déplaçant, il a entraîné donc cette fissure sur les voies et sur un ouvrage hydraulique qui se trouve juste en dessous de la route. Il faut donc attendre et surveiller l'évolution de tout ça. Et si, et seulement si le terrain se stabilise, alors les travaux de réparation pourront commencer et une réouverture le 1er mai pourrait donc être envisagée. Mais voilà, rien n'est encore sûr. En attendant, de nombreuses voix se font entendre depuis ce week-end pour trouver des solutions. Certaines associations d'usagers réclament la gratuité des transports publics le temps de la fermeture. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, demande, elle, la gratuité de l'autoroute A14, elle aussi, dans l'ouest francilien, pour, dit-elle, garantir l'accès à Paris pour tous.
Et alors, ce n'est pas le seul dossier du moment à Paris. Il y a aussi le dossier du boulodrome du quartier des Abbesses, à deux pas de Montmartre. C'est un des rares endroits où on peut encore jouer à la pétanque à Paris. Eh bien, la justice veut récupérer le terrain pour en faire un espace vert confié à un hôtelier. Les boulistes ne sont pas d'accord, pas du tout. Même, ils entendent camper sur place. Romain Poiseau est allé les rencontrer pour RMC.
Des toiles de tente en bordure de terrain de pétanque. Nathalie, jeune retraitée, est prête à dormir ici toutes les nuits s'il le faut pour défendre son jardin d'Éden.
Ici, c'est ma famille. Je ne vais pas aller marcher seule dans les rues, je ne vais pas aller me mettre dans un café. Je vais venir ici.
Jean-Charles, lui, ne campera pas sur le terrain de boule.
Non, moi, je ne campe plus. Moi. J'ai campé quand j'étais louveteau.
À 89 ans, il a vu la création du club de pétanque en 1971.
Pour le restant de mes jours, j'espérais pouvoir continuer à jouer au boule, le rencontrer les copains. Ça me fait mal au cœur.
Le Conseil de Paris a confié pour 12 ans cet espace à un hôtel particulier mitoyen pour en faire un parc modèle en matière de biodiversité, ouvert à tous. On se trompe de combat pour Éric Elmosnino, comédien et bouliste.
Il n'y a pas besoin de rajouter des chèvres et de poules. Il existe déjà cet endroit de partage et de convivialité. J'ai l'impression que maintenant, Paris, c'est plus une ville où tu peux vivre. C'est une ville, c'est un musée, quoi.
De son côté, Oscar Contet, l'hôtelier de luxe, défend la volonté de créer un espace ouvert à tous.
C'est quoi la solution ? Qui privatise l'endroit ? Qui continue à se mettre des caisses pas possibles et que ça dégénère à 2h du mat ?
Et il l'avoue, l'attractivité du parc aura pour effet d'augmenter de 30% sa clientèle pour le déjeuner.
On joue à la pétanque et puis on va aussi jouer au rugby. Aujourd'hui sur RMC, c'est l'événement à ne surtout pas manquer cet après-midi. Le Super Moscato Show qui se délocalise en direct de La Rochelle cet après-midi de 15h à 18h chez le double champion d'Europe en titre avec comme invité le manager du Stade Rochelet, Roland Nogara, et le capitaine du 15 de France, Grégory Aldrit.
Vous imaginez bien que fait Quentin Vinet à Paris pendant qu'RMC est à La Rochelle?
Prendre un train, on se le demande.
Quentin Vinet pour toute l'actu de ce mardi matin. Il est 8h09, dans 20 minutes le face-à-face sur RMC avec Néla Latrouze. Bonjour Néla. Bonjour Christian Estrosi, ce matin le maire de Nice.
Oui, absolument, le maire de Nice avec le débat du jour. Est-ce qu'il faut rétablir le couvre-feu pour les mineurs? Le maire de Béziers l'a fait, d'autres villes le mettent en place. Et à l'instant, chez vous, à votre micro, la ministre des Collectivités dit, eh bien pourquoi pas. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut pour lutter contre la délinquance des jeunes?
Christian Estrosi dans le face-à-face à 8h30 sur RMC avec Néla Latrouze. Pour l'heure, il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et le tour de vis sur l'assurance chômage, c'est pour cet été. Le gouvernement reprend la main après l'échec des négociations entre partenaires sociaux. Le parti pris à suivre de Michel Bogas de Force Ouvrière. Il dénonce un coup de force du gouvernement. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et ce tour de vis sur l'assurance chômage fait débat ce matin sur RMC et notamment sur Direct Studio. Entre d'un côté ceux qui défendent ce durcissement annoncé des conditions d'accès au chômage. Rémi, par exemple, il faut durcir l'assurance chômage. Je cherche un boulanger depuis 3 ans. Il y a 15 jours, une vendeuse a fait un abandon de poste. Impossible de trouver des remplaçants. Depuis le Covid, le boulot n'est plus la priorité, dit Rémi sur Direct Studio. Milton, de son côté, estime que c'est une bonne idée. Je travaille dans le BTP. J'ai eu beaucoup d'intérimaires qui préfèrent le chômage plutôt que de venir travailler. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas et pour qui c'est même un scandale de vouloir durcir l'assurance chômage. Noire par exemple, qui dit qu'elle en a marre de toujours niveler par le bas. On cotise pour ce droit. Vince, de son côté, se demande si on va aussi baisser les cotisations, si les indemnités chômage baissent, ou est-ce que c'est que pour ponctionner toujours les petites gens. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le gouvernement a raison de s'en prendre aux chômeurs? Est-ce qu'il y a urgence à réformer l'assurance chômage? Venez nous le dire au 32-16 et sur Direct Studio.
RMC, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story, 8h13.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Michel Bogas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes secrétaire confédéral à Force Ouvrière. C'est vous qui négociez pour ce syndicat sur le sujet de l'assurance chômage, enfin, qui avait négocié puisque c'est terminé. Le gouvernement reprend la main après l'échec des discussions avec donc ce calendrier qui s'accélère puisque les nouvelles conditions s'appliqueront au 1er juillet. Vous dénoncez un coup de force du gouvernement ?
Oui, bien évidemment, parce que rien n'empêchait le gouvernement d'agréer la dernière convention d'assurance chômage, celle que nous avons négociée en novembre dernier. Et le prétexte pris par le gouvernement de l'échec de la négociation sur l'emploi senior, une négociation que j'ai aussi suivie, est en partie due aux interventions du gouvernement en catimini pour, par exemple, empêcher qu'on ait des améliorations sur la retraite complémentaire. En fait, le Premier ministre, depuis longtemps, et le Président de la République, veulent reprendre la main. Voilà. Et là, c'est un coup de force.
Vous regrettez pas de pas avoir trouvé d'accord? Parce que finalement, si vous vous étiez mis d'accord, le gouvernement n'aurait pas eu le choix que de reprendre votre texte.
Alors, tout dépend, parce que on a quand même, quand on négocie une lettre de cadrage du gouvernement, très, très cadrée. Déjà en novembre, la négociation a été difficile pour trouver un accord. On nous avait promis une nouvelle lettre, là, le gouvernement passe par un artifice légal, c'est-à-dire qu'il n'agrée pas la convention d'assurance chômage, il prend ce qu'on appelle un décret de carence et il reprend la main pour 3 ans. C'est-à-dire que c'est lui qui décidera, à la place des interlocuteurs sociaux, des conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi, et tout ça dans un simple but budgétaire. À partir du moment où vous diminuez soit l'entrée dans l'assurance chômage, soit le montant des indemnités, vous faites de moindres dépenses, l'assurance chômage est donc excédentaire, donc on pourrait redistribuer, mais au lieu de ça, en fait, le gouvernement récupère cet argent pour équilibrer les comptes publics. 12 milliards,
y a-t-il prévu ? Serrer la vis, Michel Bogas, ça ne peut pas inciter plus fortement certains chômeurs à reprendre un emploi ?
Non. Toutes les études économiques, alors il y a quelques économistes proches du pouvoir qui disent qu'il faut, plein d'autres, et des gens sérieux et pas des gauchistes, disent que diminuer en fait l'indemnisation et l'assurance chômage, ça remet pas plus vite les gens au travail. Bien au contraire, ça les enferme dans la pauvreté et la précarité. Quand vous êtes obligé tous les jours de savoir comment vous allez manger, comment vous allez nourrir vos enfants, eh ben ça vous empêche de chercher du travail. Et puis si c'était la réalité, 6,3 millions de demandeurs d'emploi dans notre pays, 2,4 millions seulement sont indemnisés.
Mais sur ces chômeurs indemnisés, il y a eu des contrôles, et Pôle emploi a donné des chiffres. 17% ont été sanctionnés parce qu'ils n'étaient pas en recherche suffisamment active d'un emploi, et notamment dans des secteurs en tension qui pourtant recrutent beaucoup. Ça ne vous pose pas question ?
Bah écoutez, non. Moi, ce qui me pose question, c'est quand j'entends des gens qui disent qu'ils trouvent pas de salariés. Écoutez, quand vous allez travailler, c'est pour gagner votre vie. Si c'est pour avoir un faible salaire, ne pas gagner correctement votre vie, avoir des conditions de travail mauvaises, bien évidemment que le métier n'est pas attractif. Travaillons sur l'attractivité des métiers, et vous verrez que, eh bien, tout de suite, on reverra des gens volontaires pour aller travailler sur des métiers qui sont des métiers dits pénibles quand même, Donc voilà, eh bien, la pénibilité, entre guillemets, ça se paie.
Alors sur cette réforme de l'assurance chômage, le gouvernement dit quand même partir d'une page blanche. Il va bien y avoir des concertations jusqu'à la fin du mois de juin, jusqu'à prendre ce décret qui s'appliquera au 1er juillet. Est-ce que vous êtes prêts à discuter, à concerter? Quelles seraient vos lignes rouges?
Bah, écoutez, nous, bien évidemment, à Force Ouvrière, on n'a jamais fait la politique de la chaise vide. Si, et puis nous sommes républicains, donc si la ministre du Travail nous invite à nous concerter sur le sujet, nous allons y aller. La ligne rouge, mais elle existe déjà, c'est ne plus diminuer l'indemnisation de l'assurance chômage. Ça y est, on est arrivé à l'os, si j'ose dire. Et donc, l'idée du Premier ministre que de diminuer ce qu'on appelle la période de référence, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois pour être indemnisé, de diminuer cette période. Imaginons 6 mois dans les 12 derniers, vous diminuez bien évidemment fortement l'entrée dans l'assurance chômage.
Et donc ça aussi c'est une ligne rouge, c'est-à-dire que vous refusez les deux pistes qui sont sur la table, qui ont été mises sur la table par le Premier ministre, c'est-à-dire soit on réduit les indemnités, soit on réduit la durée des indemnités, soit on durcit finalement les conditions pour être indemnisé. Dans les deux cas, pour vous, ce sont des lignes rouges.
Oui, parce que on a déjà fait beaucoup. Je vous rappelle que ça serait la 4e réforme de l'assurance chômage dans les 3 dernières années. 4e, ça veut dire que soit l'État s'est trompé avec les 3 premières, et donc il aurait dû laisser la main aux interlocuteurs sociaux, soit il avait raison, et donc qu'on laisse faire, qu'on évalue, alors qu'il y a à peine 6 mois qu'on a fait la dernière réforme, et il n'y a jamais d'évaluation, et le but, c'est bien évidemment de faire des économies.
Michel Bogaz, vous êtes prêt à descendre dans la rue, à organiser des manifestations sur ce sujet ?
Alors, bien évidemment, mais on sait pertinemment qu'il est difficile de mobiliser sur l'assurance chômage, c'est comme ça. Autant sur les retraites, on peut mobiliser beaucoup parce que chacun aspire un jour à être à la retraite. Contrairement à ce que pense le gouvernement, personne n'aspire à être demandeur d'emploi.
Merci Michel Bogaz, votre parti pris ce matin en direct sur RMC. Vous êtes secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Il est 8h19.
RMC, Apolline Matin.
Et tous les jours de manche.
C'est l'heure d'Arnaud de Manche. Rebonjour.
Et bonjour, Arnaud. Bonjour tout le monde. Amélie, Martha, Manu qui arrive. Et bonjour Sébastien. Alors Sébastien, j'espère que vous habituez à l'exercice de ma chronique. C'est pas toujours facile de donner la réplique moment. Vous avez votre feuille?
Alors,
là,
j'ai,
tout va bien.
J'ai ma feuille. Écoutez Arnaud, c'est un honneur pour moi. Vos chroniques sont parfaitement écrites. Tout est fluide, intelligent et incroyablement drôle.
Je vous remercie Sébastien. Je vois que vous prenez le pli, c'est bien. Allez, c'est une journée spéciale. On est tous un peu choqués ce matin. On se demande comment va Kenji Girac. Vous savez qu'il a pris une balle andalouse aussi. Alors, d'après son propre témoignage, il s'est tiré dessus. Cette famille, son père Jacques Girac, lui aussi, il tirait à tout bout de champ. Kenji a failli faire partie du club des 27. Vous savez, c'est ces musiciens qui sont morts à 27 ans. Donc il a failli rentrer dans le clan des Jim Morrison, des Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix. C'était parti pour. Et puis Dieu a écouté ses albums. Alors il a décidé de le sauver. Il a fait, non, ça va faire tâche dans l'ensemble. Résultat, Kenji n'est plus en danger. Il est conscient et il a parlé d'un accident domestique. Il n'y a quand même pas beaucoup d'accidents domestiques où tu te tires toi-même dans le buffet, quoi. Comment il a fait son compte? Tu fais les poussières sur les étagères où tu ranges tes flingues à 5h du matin, comme tout le monde, et le Swiffer se prend dans la gâchette et pan ! C'est l'accident bête. Les copains gitans de Kenji sur place, ils ont bien essayé de faire passer les cris de Kenji pour un concert unplugged. Vous vous souvenez de ça, d'où ça vient?
Oui,
c'est une préparation H.
Contre les hémorroïdes.
Ouais, contre les hémorroïdes.
Ah ouais, je ne l'avais pas.
Okay. Kenji a déclaré avoir acheté une arme à feu la veille sur une brocante. Qui vend des armes en brocante? C'est quoi les brocantes? En brocante, tu trouves des bougeoirs avec des angelots, des assiettes avec des bourgeois du 18e qui font de la balançoire peinte sur les assiettes, des tableaux avec des clowns tristes, mais enfin, des glocks en état de marche, c'est rare. Ce n'est pas une brocante, là, c'était un vide-grenier chez les Delon. Évidemment, depuis, tout le monde fait des blagues sur l'omerta des gitans autour de cette affaire. D'ailleurs, est-ce qu'il a été soigné par des médecins gitans? Ça, on sait pas. Ça donnerait quoi, des médecins gitans?
Allez Kenji, on s'accroche, accroche. Bienvenue dans le tunnel mystérieux. Après ta visite au stand de tir. Pour une très belle perfusion. Allez, bon rétablissement. On lui souhaite quand même bon courage.
Autre sujet, Gaumont veut produire une série sur la vie de Brigitte Macron.
Oui, alors la série s'intitulera Brigitte, une femme libre.
Ça
et elle a,
Et elle a pour but, c'est vrai, c'est une vraie info. Et elle a pour but, je cite.
On a tous eu du mal à y croire.
On te croit, Arnaud.
La série a pour but, alors je cite, de retracer la trajectoire romanesque de Brigitte Macron. La principale difficulté, ça va être le passage de la rencontre avec Emmanuel, parce que si l'écriture est maladroite, si le casting est mal choisi, attention. Tu vois, si c'est Marina Foïs qui joue Brigitte, voilà. Enfin, le résultat sera pas le même si c'est Chantal là-dessous, quoi. Salut mon petit malin. Mais dis donc, t'es pas moche toi, viens me voir après les cours. Je t'aiderai à réviser tes poésies. Et il faut faire hyper gaffe. Alors pour concurrencer Brigitte, une femme libre, Disney va sortir une série encore plus intéressante, François Bayrou, un homme solitaire. Quant à Netflix, elle annonce travailler sur Stanislas Guérini, une vie. Petite bande-annonce. Stanislas Guérini, une vie. Retrouvez l'histoire d'un homme qui n'est pas parti de très loin et qui n'est pas arrivé au sommet non plus. Et découvrez les moments les plus passionnants de la vie de Stanislas Guérini. Bonjour Monsieur Guérini, deux tranches de jambon comme d'habitude ?
Oui s'il vous plaît Monsieur Armand.
Intensité, le tout jusqu'à son irrésistible ascension politique. Monsieur le Président, on n'a personne pour transporter les chaises pour le meeting de ce soir à Romorantin. Mm. Bon, ben, il n'y a qu'à envoyer le chauve qui dit rien pendant les réunions, là. Guérini ? Oui, voilà, enfin un truc pour lui. Stanislas Guérini, une vie. Une série faite pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil. Bientôt, sur vos écrans.
Emmanuel Macron, lui, va jouer au foot demain. Match avec le Variété Club de France et pour l'opération Pièce Jaune.
Et oui, un match qu'on débriefe déjà dans l'after.
Ah, Daniel.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Horrible.
Il y a toujours un petit
peu. Pourquoi tu fais faire les jingles en live maintenant?
Bienvenue dans l'after, l'after premier podcast de France. N'hésitez pas à vous abonner dans la foulée au podcast d'Arnaud Demanche aussi. Et on est avec Daniel Violon. Salut Daniel, pour parler de ce match avec Emmanuel Macron sur le terrain. Daniel, au profit des pièces jaunes, Daniel.
Oui, mais moi je me méfierais hein, si j'étais les gosses à l'hôpital. À mon avis, Macron il va se barrer avec la billetterie. Hein. Quand t'as 20 milliards de déficit, un sou est un sou quoi.
Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Le président va être fair play, on en est sûr, d'autant qu'il joue contre une équipe de soignants Daniel.
Ouais, tu m'étonnes, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'oppose à des soignants. Hein. C'est même plutôt une habitude chez lui. Et qu'avoir la gueule des hôpitaux, ça m'étonnerait pas qu'il essaye de casser une cheville à un infirmier juste pour le principe.
Oh Daniel, enfin Daniel, c'est un match de solidarité quand même. Tout le monde va tirer dans le même sens, c'est les pièces jaunes. En plus, on sait que les Français adorent l'opération pièces jaunes et ils donnent beaucoup.
Ouais, c'est sûr, hein, ils peuvent donner des pièces jaunes, les Français, ils n'ont plus que ça. Ce serait l'opération billet violet, ça marcherait moins bien. Hein.
Oh Daniel, enfin, arrête à la fin. En tout cas, on est impatients de ce match. On le débriefera évidemment jeudi. On compte sur RMC pour retransmettre la rencontre. Vas-y mon Jeannot, et à toi Sébastien.
Jeudi, ce sera avec Apolline, qui sera de retour jeudi matin. Arnaud Demanche, à demain. En tous les cas, pour
à demain.
Parce que c'est tous les jours.
Et en Demanche.
Dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et sur BFM TV. Néla Latrousse reçoit Christian Estrosi, le maire de Nice. Et nous, on reste ensemble sur RMC Story pour un nouveau journal et la météo dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Neila Latrousse.
8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est donc le maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous étiez hier dans votre ville avec le Premier ministre pour l'ouverture d'un internat pour les élèves décrocheurs, pour le dire autrement, des jeunes qui sont sur la pente de la délinquance. La prévention, c'est l'un des volets du plan de Gabriel Attal. Je voudrais vous entendre là-dessus dans quelques minutes. Parce que le moins que l'on puisse dire, Christian Estrosi, c'est que nul ne songe à vous classer parmi les élus laxistes en la matière. Vous avez eu par le passé des propos fermes sur la délinquance des jeunes, sur la responsabilité des parents. Vous faites partie de ces élus dont la voix compte. Qu'avez-vous pensé des annonces de Gabriel Attal ?
Bon, d'abord, ce n'était pas l'ouverture d'un internat spécifique à ça. Ça reste un internat d'un lycée, d'ailleurs du lycée où j'ai fait mes études. Et c'était un stage de rupture.
Qui est utilisé pendant les vacances.
Pendant les vacances scolaires. Donc
remettre sur le droit chemin.
On a illustré le garde des Sceaux et Gabriel Attal ont voulu illustrer dans une ville d'ailleurs qui est la seule où il n'y a pas eu d'émeute urbaine, je vous le rappelle, au mois de juin dernier, comment on pouvait prendre 20 adolescent qui avait entre 13 et 14 ans et qui était en limite de décrochage scolaire et où les parents étaient volontaires par l'intermédiaire d'associations de quartier que nous finançons et qui ont des médiateurs pour faire une expérimentation sur un stage de rupture pendant 12 jours de vacances scolaires.
Mais qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne solution, c'est une bonne piste d'isoler ces jeunes de leur milieu,
naturellement,
pendant les vacances.
Ça fait partie d'une piste, mais en même temps, elle est tellement révélatrice, cette piste. Lorsque je vois...
Révélatrice de quoi ? Le
débat qui s'est instauré avec le Premier ministre autour de lui, qui avait des côtés surréalistes, où vous aviez d'un côté... des parents qui disaient, puisqu'ils étaient là aussi dans ce débat que nous avons partagé, merci à la collectivité, merci au Premier ministre et au garde des Sceaux de cette initiative. On a du mal avec nos enfants. On a proposé par l'intermédiaire de l'association de les prendre en charge pendant ces jours de vacances. Et puis vous aviez les gamins qui disaient « mais moi je veux pas, mais moi j'ai rien à faire ici » et qui sont même allés jusqu'à dire, lorsque le Premier ministre à un moment les interroge « tu fais quoi dans ta journée ?»« Ah ben moi je suis sur TikTok du matin au soir ou dans la rue du matin au soir. » Et sur TikTok, tu regardes tout quoi ? Ah ben, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder les images de la violence sur les flics et des flics qui se font caillasser.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que vous craignez que l'expérimentation n'échoue, que ce n'est pas suffisant, que ces jeunes n'ont pas l'air, au fond, de comprendre ce qu'ils font là ?
Non, mais je dis que quand on a ce constat-là, on se dit que, bon, il faut faire l'expérimentation par ce stage de rupture qui est intéressant. Mais il va falloir faire un bilan aussi à la fin du stage de rupture, parce que s'il n'y a pas effectivement une rupture au terme de ce stage où on a changé de langage...
Parce qu'ils reviennent auprès de leurs copains auprès des deux semaines.
Et qu'on revient aux fondamentaux qui sont les leurs aujourd'hui, je pense qu'il faut passer une étape supérieure.
C'est quoi l'étape supérieure ?
Et l'étape supérieure, puisque les stages, ça existe quand même, nous en pratiquons nous-mêmes, collectivités, toute l'année, pendant toutes les vacances scolaires, c'est naturellement alors un vrai placement en internat, avec une injonction à être placé dans des places disponibles, puisque comme on nous l'explique depuis un certain temps, et c'est une réalité, nous le constatons nous-mêmes, puisque nous avons des internats régionaux dans nos lycées,
C'est-à-dire à l'année, un placement à l'internat à l'année, Christian Estrosi, pas uniquement pendant les vacances.
Selon les localisations, entre 20 et 40% de places internat disponibles et qui doivent être placées à l'année et encadrées à l'année dans ces internats.
Oui, Christian Estrosi, hier, aux côtés de Gabriel Attal, vous avez cité le garde des Sceaux qui était présent. Il y avait aussi la ministre des Familles, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais il n'y avait pas la ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est regrettable ?
La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était venue quelques jours avant à Nice pour que nous puissions illustrer un certain nombre de choses que nous faisons.
Donc c'est une fausse polémique. Ceux qui disent qu'elle n'y était pas, il n'y a que du répressif.
La convention que j'ai signée moi-même, on est la première ville de France à l'avoir fait avec la rectrice de l'Académie sur la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est aussi une souffrance et une réalité. Donc j'imagine que dans la répartition des déplacements du gouvernement et de leurs responsabilités, les choses ont été organisées comme ça. Mais je ne doute pas, parce que je sais que Nicole Belloubet a une véritable volonté aussi. Elle était très intéressée lorsqu'elle est venue voir ma propre expérience, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un policier dans chaque école communale, école primaire donc, un bouton d'alerte entre les mains du directeur de l'école, des policiers à l'extérieur, des caméras à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, en période vigilance-attentat, ce qui est le plus menacé, ce sont nos écoles, ce sont nos jeunes.
Et j'ai même le souvenir, Christian Estrosi, que vous aviez lancé un débat sur les portiques de sécurité et que vous aviez mis en œuvre en 2009, dans votre ville, un couvre-feu pour les mineurs. C'est une question qui revient dans l'actualité. Le maire de Béziers a mis en place hier un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la même mesure pour Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous, à Nice, vous songez à remettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs dans
votre ville ? Mais nous l'avons mis en œuvre en 2009.
Oui.
Bon, et ça a montré son efficacité.
C'est efficace.
Nous avons eu...
Vous faites le lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait par exemple pas eu d'émeute urbaine dans votre ville.
Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application, vous savez.
Gabriel... Donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu était prolongé jusqu'aujourd'hui.
Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes
pour les moins de 13 ans aussi,
à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans.
C'est la catégorie d'âge que vous visez.
Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers. Ouais.
Ce sera dans toute la ville ou dans certains quartiers, puisque vous dites à l'instant...
Non, ce sera pour toute la ville, pour les moins de 13 ans, et on va identifier certains
quartiers. Dans les prochaines semaines, avant l'été.
Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir... si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Ça fait partie de ces sujets où nous voyons bien que dans les annonces de son discours de politique générale, comme celle renouvelée et avirée par le Premier ministre, à la fois sur la prévention et sur la répression, il y a des mesures importantes qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible.
Ça ne va pas assez vite pour vous, Christian Estrosi.
Je me dis qu'il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Pourquoi, par exemple, alors qu'il y a des lois qui ont été votées, je pense à la loi Taquet sur la protection de l'enfance, le décryptage, sur l'accueil, sur l'accompagnement sont prévus, les décrets d'application ne sont toujours pas pris. Ouais. Mais prenons-les tout de suite et dès la semaine prochaine, ils seront opérationnels. Il y a un manque de moyens évident. Aujourd'hui, on sait qu'il manque près de 30 000 éducateurs spécialisés. Ouais. Nous savons que nous avons près d'un tiers des structures d'encadrement qui sont en sous-effectif. Nous savons qu'il y a près de 50% des établissements scolaires dans lesquels il manque à minima un enseignant.
Et vous dites qu'il y a un décalage entre le discours ferme et les moyens mis sur la table.
Je vois cette volonté de Gabriel Attal que je soutiens et que j'accompagne, mais en même temps, il y a naturellement la volonté, et puis il doit y avoir le passage à l'action le plus rapide possible. Et puis, il doit y avoir naturellement un réalisme que je voudrais qu'il soit beaucoup plus affirmé.
À quel sujet, Christian?
Par exemple, pourquoi on veut toujours occulter le fait que la délinquance, que l'immigration clandestine, que l'échec de l'intégration soit lié, alors que nous savons que dans toutes les statistiques, c'est une réalité à plus de 60%.
Emmanuel Macron,
comme s'il y avait une petite gêne quelque part.
Emmanuel Macron avait fait le lien dans les années passées en évoquant notamment le fait de pouvoir expulser des personnes immigrées qui se sont rendues coupables de délits sur le sol français. Il avait fait le lien, Emmanuel Macron.
Eh bien, dans ces mesures aujourd'hui, il faut y aller.
C'est-à-dire,
il faut le dire.
Qu'est-ce que vous réclamez de la part de Gabriel Attal en la matière pour bien comprendre ce que vous dites, Christian Estrosi?
Écoutez, le problème du séparatisme.
Oui.
Le problème de cette cinquième colonne que j'ai été le premier à dénoncer en 2015 et qui aujourd'hui a parcouru tout son chemin est implanté de partout. Il serait peut-être temps, par exemple, qu'on interdise toutes les écoles qui ne sont pas sous contrat d'association avec l'État. Je vois
cinquième
le tribunal
colonne,
administratif de Nice.
Notamment alors Jordan Bardella dans le journal du dimanche
fermé,
ce week-end.
Fait fermer un collège de confession musulmane qui n'était pas sous contrat d'association, qui a une opacité totale sur la transparence de son financement, et le tribunal administratif...
Le collège Avicenne, pour le citer.
Qui vient de casser la décision qui est prise par le préfet. Alors
oui, certes, parce que le tribunal dit
sur le fond.
Alors, je vais expliquer pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, Christian Estrosi. Le tribunal administratif a jugé que l'accusation portée par le préfet sur les financements opaques n'était pas étayée.
Oui, et c'est pas étayé. Mais ce qui n'est pas étayé, c'est les explications fournies par le collège. Et comment le tribunal administratif, qui est censé demander au collège les preuves que n'a pas obtenues le préfet et qui ne les obtient pas lui-même,
la justice dit que le préfet
peut-il casser la décision du préfet
en disant que le préfet est incapable de justifier ce dont il accuse ce collège.
Nous éviterons bien des difficultés si sur tout ce qu'il y a comme mesures confessionnelles dans des écoles ou des collèges ou des lycées sans contrat d'association avec l'État, on décide que ce soit des établissements qui ne puissent pas dispenser l'éducation nationale. L'éducation nationale, ça a un sens. Dire l'éducation nationale, c'est la même éducation pour tout le monde.
Donc Christian Estrosi, d'un mot, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal quand il dit sur le plateau de BFM TV qu'il y a une forme de charia qui s'impose aujourd'hui dans l'éducation.
Oui.
Que certains essayent d'imposer les pressions.
Oui. Il le dit avec des mots justes, avec des mots forts, et je les partage naturellement.
Vous avez vu que la Grande Mosquée de Paris l'accuse aujourd'hui de parler comme le Rassemblement National, ce que dit d'ailleurs le Rassemblement National aussi en se reconnaissant dans les mots de Jordan Bardella, et en disant systématiquement, à l'approche des élections, je cite de tête le communiqué de la Mosquée de Paris, il y a cette tentation d'instrumentaliser la question des musulmans.
Ce que je dis moi-même depuis 15 ans, on va me dire, vous dites la même chose que le Front National, je peux vous dire aussi que le Front National dit la même chose que ce que je dis. Bon, c'est simplement du réalisme, c'est une réalité dans notre pays. Pourquoi nous sommes confrontés à tout cela et d'autres pays ne le sont pas? Pourquoi l'Allemagne ne l'est pas? Parce que l'État n'a pas eu peur d'aborder ces problèmes avec le réalisme nécessaire. Ouais. Qu'aujourd'hui, il y a un principe de réalisme, eh bien, c'est tant mieux.
Christian Estrosi, j'en reviens aux annonces de Gabriel Attal. Il y a tout un volet sur la responsabilisation des parents, notamment. Vous citiez le préfet des Alpes-Maritimes. Dans un temps, il avait dit de claquer au lit. Sa phrase avait suscité beaucoup de réactions. Est-ce qu'il faut restaurer le droit à la correction pour les parents, Christian Estrosi? Aujourd'hui, ça fait débat après la décision d'une cour de relaxer un policier qui précisément frappait ses enfants.
Eh bien, écoutez, d'abord, je suis pour cette responsabilisation. Nous voyons bien un abandon, nous voyons bien des parents. Alors, il faut faire une différence entre, encore une fois, une maman qui se retrouve dans une situation monoparentale, qui doit partir tôt, travailler le matin, rentrer tard le soir, et qui a 3, 4, 5 enfants à charge, toute seule, où là, nous devons mettre en place un système pour pouvoir l'aider, et l'accompagner, et la soutenir.
Et, vous dites, et les parents qui n'essayent même pas.
Et puis les parents qui sont permissifs, les parents qui sont en situation d'abandon total, et qui là, doivent être responsabilisés.
Mais sur le droit à la correction, Christian Estrosi.
Et donc c'est là que je demande à ce que, notamment dans les mesures que propose le Premier ministre, il rajoute des mesures de décentralisation vers les maires. Parce que qui est-ce qui doit subir tout ça? Ce sont nous, les maires, qui,
vous dites,
sur notre territoire,
sommes confrontés à tout cela. On doit pouvoir décider nous-mêmes, les maires, par exemple, des travaux d'intérêt généraux pour les parents, ou des choses dans le genre, c'est si je comprends bien ce que vous dites, Christian Estrosi, puisque vous restez un peu au milieu du guet, là.
Lorsque, écoutez, j'étais ministre délégué de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et j'ai porté à ses côtés la loi sur la prévention de la délinquance des mineurs, qui a créé les contrats locaux de sécurité de prévention de la délinquance. Peu de villes en France le mettent en place. Moi, je l'ai mis en place.
Ouais.
Et ce qui nous permet aujourd'hui, notamment, de faire des rappels à l'ordre aux familles. Mais c'est très limité, le rappel à l'ordre, c'est vous avoir en face et vous dire, vous savez, c'est pas bien, votre gamin, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis que je dois pouvoir décider, par exemple, là où je mets en place des travaux d'intérêt général que je mets à disposition d'un tribunal pour qu'on me mette des mineurs, qu'on puisse aussi m'y mettre des majeurs.
Ouais.
Je suis en train de mettre en place une école de parents vigilants. Je veux pouvoir avoir un droit d'obligation, d'injonction à des parents pour pouvoir les prendre en charge et leur apprendre à être de vrais parents et faire le travail qui doit être le leur dans l'éducation des enfants. Et puis à un moment, j'ai instauré d'ailleurs avec mon conseil municipal il y a peu de temps, des amendes administratives qui viennent compléter des amendes judiciaires pour faire payer aux parents. Oui. Quand des enfants vont casser quelque part.
Il nous reste 4 minutes, Christian Esposi, et j'aimerais vous entendre sur d'autres sujets. Votre ville va notamment recevoir les matchs de football des Jeux de Paris d'ici quelques semaines désormais. Est-ce que vous avez obtenu des garanties sur la sécurisation des matchs? Je dis cela en ayant évidemment en tête le fait que le procès en appel des proches du terroriste de l'attentat du 14 juillet 2016 a lieu en ce moment, et qu'à l'époque, vous aviez précisément pointé du doigt un défaut de sécurisation. Est-ce que pour les Jeux, vous êtes serein aujourd'hui? Vous dites, bon, je sais que j'aurai le dispositif suffisant.
Bon, d'abord, on organise quelque chose de plus important, la dimension de Nice, que 6 matchs de foot des Jeux Olympiques, puisque le 21 juillet prochain, je vous le rappelle, pour la première fois au bout de 110 ans, le Tour de France cycliste n'arrivera pas sur les Champs-Élysées, mais arrivera sur la
Promenade des Anglais. Et vous avez raison, et ça fait deux événements
à Nice,
importants. Regardez, est-ce que vous avez toutes les garanties de sécurité?
Par ailleurs, si le ministre de l'Intérieur, alors que l'État a la charge de la sécurisation de ce qu'on appelle les grands événements, a donné son feu vert et m'a garanti la mobilisation d'un certain nombre d'unités mobiles pour ces événements, je lui accorde toute ma confiance. Donc, je n'ai aucune inquiétude, même si nous savons que nous devons être extrêmement vigilants. Mais dans la coordination qui doit être assurée par le préfet au nom du ministre de l'Intérieur, nous disposerons des moyens nécessaires. Mais puisque vous parlez de l'ouverture du procès en appel de l'attentat terroriste du 14 juillet, naturellement, je veux dire que c'est une deuxième souffrance, une deuxième épreuve vis-à-vis de ces deux complices, ou en tout cas ces deux associations de malfaiteurs qui ont été prononcées contre deux proches du barbare qui a assassiné 86 personnes sur la promenade des Anglais. Je souhaite non seulement que sa peine soit confirmée, voire même qu'elle soit renforcée, et j'ai veux exprimer en même temps toute ma compassion pour ces familles qui naturellement vont avoir à subir encore des semaines et des mois difficiles et éprouvants.
Puisqu'on évoquait le Rassemblement National, d'un mot, comment vous expliquez que Jordan Bardella culmine aujourd'hui à la tête de tous les sondages? Il est imbattable. Le Rassemblement National est devenu aujourd'hui imbattable.
Vous savez, dans les années 80, j'avais en face de moi, dans mon département, dans ma circonscription.
Oui, mais on parle pas de 80, on parle de 2024, Christian Estrosi.
Il y avait Jean-Marie Le Pen.
Et il y a quelques 14 points entre la liste de Jordan Bardella et celle de votre majorité, Valérie Ayé.
Il y avait Jean-Marie Le Pen, auquel on donnait dans les sondages, et qui les réalisait même 29, 30, 31%, c'est-à-dire à peu près le même niveau qu'aujourd'hui pour Jordan Bardella. Et à chaque fois, on disait qu'on allait se faire pulvériser dans notre association à l'époque.
Et donc, vous n'y croyez pas pour les européennes?
Et à chaque fois, je l'ai emporté aux législatives, nous l'avons emporté aux élections régionales, malgré la présence physique de Jean-Marie Le Pen et des scores qui lui étaient donnés. Donc, je dis que nous ne sommes pas rentrés dans le feu de l'action des élections européennes.
Ce n'est pas perdu d'avance.
Choix, vous savez, l'Europe, ça nous a
protégés. Christian Estrosi, ce n'est pas perdu d'avance pour vous.
L'Europe, ça nous a protégés de la pandémie au moment du Covid. Les vaccins, les masques, tout ça, les Français en sont conscients, les Européens en sont conscients. Ça nous a protégés au moment de la déclaration de la guerre en Ukraine par la Russie.
Mais vous ne répondez pas à ma question.
Ça nous a protégés au plan économique. Je suis là pour plaider le fait que d'un côté,
vous
ayez un mouvement qui propose des choses où la Constitution ne permet même pas le quart de leurs mesures d'être mises en œuvre, et que ça n'est qu'une sorte de fumisterie, et que de l'autre côté, naturellement, alors que nous avons à construire une Europe industrielle, une Europe qui protège, eh bien, je pense que nous allons rentrer dans le feu de l'action, et que nous allons sans doute, avec Édouard Philippe et avec d'autres au cœur de la majorité présidentielle, apporter cette voix de droite qui pourra nous aider.
Vous n'avez pas répondu à ma question, mais merci Christian Estrosi. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci de vous être déplacé, d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous et bonne journée à tous.